J'ai tout appris de la nuit.
Dans les yeux de Jacques Lucéran. Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Cibran.
Épisode 3. Des histoires de vie et de confiance.
Te voilà poussé dans ce wagon pour Buchenwald. Autour de toi, 95 hommes, debout, serrés les uns contre les autres. Les portes sont scellées. 2 jours et demi de voyage. Une éternité pour vous. Privés de nourriture, de lumière et sans eau. Une éternité, surtout quand on ignore vers où l'on va, avec rien d'autre que cette promiscuité intenable. Tout ce qu'il va vous falloir vivre ensemble quand vous ne vous êtes pas choisis. Votre seule certitude, c'est le rythme des travées. Ces secousses au départ, aux arrêts avec ces bousculades qui réveillent des douleurs, aux coudes enfoncés, aux pieds écrasés. Et ces odeurs, ces haleines, ces souffles, ces voix qui vous traversent, vous révulsent souvent. Si l'on chante au début par bravade, si l'on a encore la force de se hisser aux grilles d'aération pour tenter de déchiffrer les noms des gares, les forces lâchent au fil de la fatigue. Le cœur chaviré par la pestilence de la tinette, la tête remplie de questions. Dans ce grand corps agglutiné, tout se sent. Vigilance exacerbée qui amplifie le moindre son. La colère de l'un vient cingler le reste du groupe. Un mot et la peur ondule de l'un à l'autre comme une vague lourde. Parfois, un mouvement se fait au cœur de votre grappe. Obscurs échauffourés, d'où vous tentez maladroitement de vous extraire, contraints de piétiner ceux qui se sont laissés tomber à terre et qui n'en peuvent plus.
Ce qui faisait mal, c'était la soif. Et bientôt, ce furent aussi les jambes pour l'œdème qui nous montait jusqu'aux genoux.
Tandis que toi, tu guettes. L'obscurité n'est rien pour toi. Mieux que personne, tu l'habites. Et voilà qu'au fil des heures, on se tourne vers l'aveugle, comme si les ténèbres où vous êtes plongés permettaient de mieux percevoir ce cœur à l'écoute, cette aptitude à la nuit. De partout on t'appelle. Aussitôt tu réponds, habile à ramper, t'immiscer dans l'enchevêtrement des plaintes, pour remonter jusqu'à la voix, y apposer tes mains, y laisser quelques mots. Ainsi tu rampes, pendant près de 2 jours, d'un corps à l'autre, au fil des gémissements. Ce temps dans le train, c'est votre première mue. Une mue à rebours, où il vous faut laisser votre état d'homme pour remonter progressivement vers ces reptations, ces gesticulations sans regard. Entrez dans cette métamorphose, où vos certitudes et vos confiances s'écaillent et tombent comme de vieilles peaux.
Mon corps, à la fin, était devenu une pâte molle et fiévreuse, mais ma tête, progressivement, s'éclairait du dedans. Je comprenais la vie. Je comprenais l'Allemagne.
Il y a bien longtemps que vous avez perdu toute notion du temps, de l'endroit où vous vous trouvez, quand le train s'immobilise enfin. Vous êtes arrivé à Buchenwald.
Buchenwald vit sous le signe d'un énorme humour, d'une bouffonnerie tragique.
Résistant, participant à la refondation du Parti ouvrier internationaliste, David Rousset est arrêté à Paris le 16 octobre 1943 et arrive à Buchenwald le 29 janvier 1944. Après la guerre, il publie « L'univers concentrationnaire », une des premières descriptions des camps de concentration nazis.
Au petit matin, les quais irréels sous la crudité neutre des Seine-Light, Les SS bottés, le goumi au poing, égrillards. Les hommes accroupis pour sauter des wagons, aveuglés par les coups qui les prennent au piège, refluent et se heurtent, se bousculent, s'élancent, tombent, tanguent, pieds nus dans la neige sale, englués de peur, hantés de soif.
Je ne vais pas vous montrer Buchenwald. Pas entièrement. Personne n'a jamais pu le faire.
Et sans transition, de grandes salles claires, des lignes nettes, des détenus fonctionnaires à l'aise, corrects, avec des fiches, des numéros, une indifférence apaisante, des alignements stricts en parade militaire, de tondeuses électriques qui dénudent les corps stupéfaits à la chaîne, précises, implacables comme un jeu mathématique, une baignoire obligatoire, un bain de crésil visqueux et noir qui brûle les paupières.
David Rousset offre une vision très proche de la réalité. Pourtant, je ne puis dire qu'elle soit vraie. Il n'y a pas de vérité sur l'inhumain, de même qu'il n'y en a pas sur la mort. Un camp de concentration nazi, c'était une organisation rigoureuse et paperassière, exclusivement orientée vers la persécution et vers la mort. J'ai connu là-bas des hommes qui sont morts très vite, comme des mouches, simplement parce qu'ils s'étaient crus en enfer.
Cette distinction est capitale. Face à l'horreur du camp, il y aurait, selon toi, deux mouvements. Entrer dans cette réalité mortifère pour tenter d'y mettre des mots, schématiser l'horreur à défaut de la comprendre, mais au risque d'y succomber, ce que fait David Rousset, avec un réalisme vertigineux. Ou bien ne pas s'y arrêter, traverser, ce que toi tu feras. Tous les récits sont précieux pour les générations à venir. Il ne s'agit pas de choisir. Je remarque seulement que pour toi, il n'y a de vérité que dans l'expérience singulière. Le seul témoignage possible,
c'est la manière dont le plus improbable des rescapés, un invalide, un aveugle, a pu survivre. Sur ce point, je vais tâcher d'être aussi exact, aussi complet que je vais pouvoir.
Tu ne soupçonnes pas encore que le camp est aussi le creuset d'une expérience intérieure. Le travail quotidien que tu fais pour rétablir la clarté en toi t'a préparé à ce qui t'attend. Ces conditions effroyables seront le laboratoire de tes métamorphoses, où à chaque instant, il te faudra choisir inconditionnellement ce qui penche vers la vie. Ce pourquoi désormais je ralentis encore ma lecture. Je prends le temps entre chaque mot, tant chaque détail m'est précieux. Saisi dans l'eau vive du réel, il est une nourriture pour moi. À l'admission, un Polonais te conseille de ne pas dire que tu es étudiant. Tu te présentes comme interprète français, allemand, russe, ce qui te sauvera la vie. Après l'isolement d'une mise en quarantaine, dans un hiver glacial, où encore tu survis, tu es placé aux Invalides. Une baraque de bois où sont entassés 1500 hommes, quand les autres blocs n'excèdent pas 300 hommes. Chez vous, les rations alimentaires sont divisées par deux. Les Invalides regroupent tous les inaptes au travail. Paralytiques, malades incurables, vieillards, enfants, fous. Le rythme de la mortalité est tel qu'il rend le recensement impossible. Tu tâtonnes dans ce mouroir, de blessures en moignons, évitant les cadavres. Comme personne, fût-il invalide, ne doit rester inutile, tu es affecté au Holzhof, au ramassage des branches. Je t'imagine rancogné sous le chalit. Ton croûton de pain serré dans une main, frissonnant dans cette veste trop large, ce pantalon déchiré, cette barbe naissante sous ton crâne rasé. Tu écoutes, bouche entrouverte. Le corps agglutiné du bloc des Invalides laisse sur ta langue un goût d'œuf pourri. Intensément, tu guettes. Les hommes passent, promenant leurs couleurs. Certains évanescents. Tout à coup, le voilà. Celui que tu appelleras le vieillard.
Je ne sais pas s'il existe une bénédiction plus grande que la rencontre d'un vieillard véritable, c'est-à-dire joyeux. Quand un vieil homme est joyeux, il est si fort qu'il n'a même plus besoin de parler. Il vient et il guérit. J'ai envie de me faire très modeste au moment où je parle de lui, parce qu'il était très grand et paraissait si peu. D'abord, je n'ai pas su qui il était. On me parlait de Socrate. Mes voisins prononçaient ce nom parfaitement inattendu dans le fourmillement de peur et de froid où nous nous agitions. Socrate avait dit, Socrate avait ri. Un jour, enfin, je l'ai vu.
Je m'appelle Jérémie Regard. Avant le camp, j'étais forgeron dans un village du Jura.
Il ne s'appelait pas Socrate. Et je ne comprenais pas comment son nom n'avait pas suffi aux copains. Ce n'était pas la curiosité qui me jetait vers lui. J'avais besoin de lui comme un homme qui meurt de soif a besoin d'eau.
Viens, petit. Assieds-toi près de moi.
Il te raconte les maquignons.
Ils attachaient les chevaux aux anneaux devant l'escalier de la forge, avant d'entrer. L'hiver, on parlait dans le noir, nos visages éclairés par la rougeur des braises. Dehors, ça piaffait, ça cognait du sabot. C'était des courteaux pour la plupart. Des postiers, percherons ou flamands, durs à l'attelage, à la remonte. Les ombrageux, je leur mettais la paume sur le chanfrein. Là, comme ça. Tu sens sur ton front? Après, tout gentiment, il me donnait la jambe. J'avais plus qu'à prendre la pince, faire teinter le marteau.
Le crépitement de l'eau sur le métal, l'odeur de la corne. Tu comprends qu'ils repartent avec autre chose, ceux qui viennent faire ferrer leurs bêtes. Qu'on vient surtout chercher la vie dans la forge du père Jérémie.
Ne pense pas à nous, les 1500 hommes du bloc, comme à des individus, mais comme à une glue. Les seuls mouvements que nous faisions consistaient à pousser, à s'agripper, à se déprendre, à sinuer. Mais à peine Jérémie approchait, que nous reculions d'un pas en arrière pour laisser la place à celui qui travaille.
Tu sais, Jacques, pour qui sait voir, ici, c'est comme d'habitude.
Comme d'habitude? Comment peux-tu dire une chose pareille? Pour Renval, semblable à la vie.
Puis la phrase du vieil homme ouvre en toi un chemin. Il voit Jérémie par-delà le camp, par-delà cette mort à laquelle vous pensez ne pas pouvoir échapper. Ce qu'il promène parmi vous dans le bloc, c'est une liberté toute simple, une présence à l'instant. Peu à peu, à ses côtés, dans la file des latrines, sous les fumées du crématorium, dans les heures interminables de l'appel dans le froid, tes yeux entrent dans la vision de Jérémie, comme par contact, par capillarité. Et tu comprends soudain comment le camp agit en vous. En vous fascinant, en vous faisant croire qu'il n'y a d'autre réalité que l'horreur du camp au point de la laisser entrer en vous.
Jérémie avait un spectacle dans les yeux, mais ce n'était pas celui que nous avions, nous. Ce n'était pas notre Buchenwald. Celui des victimes. Quand il disait « Ici, c'est comme d'habitude », il parlait des hommes qu'il avait vus à l'extérieur du camp, ces hommes qui, dans des conditions plus faciles, vivaient pourtant toujours dans cette peur invincible, car elle n'a pas d'objet. C'était toujours, c'était ici le même spectacle. Simplement, les conditions étaient enfin toutes remplies. La guerre, le nazisme, les folies politiques et nationales avaient fait un chef-d'œuvre, une maladie et misère parfaite, un camp de concentration.
Le plus étonnant, c'est que tu comprends cela sans la moindre explication, juste en restant assis à côté du vieil homme.
C'est qu'il donnait l'exemple. Il trouvait de la joie en plein bloc 56, une joie comme la vie, sans condition. Et donc qu'aucune condition, même la pire, ne saurait tuer.
À quoi peut-il bien ressembler, le père Regard ? Je vois deux grosses mains, les doigts un peu raidis, comme des gants oubliés. Des mains habiles encore à ramasser le clou tombé entre deux pierres ou à serrer l'outil. Le visage buriné par le feu de la forge et ses yeux transparents que tout traverse et qui ne gardent rien. Il trotte avec ses godillots déglingués vers la flaque de soleil, entre deux tôles, tous ces méandres où il peut s'encoigner, surprendre le vol d'un oiseau, laisser le bout de pain brûler, perdre son amertume dans sa bouche et devenir presque sucré, glaner une phrase, l'expression d'un visage, et lui laisser encore le temps de disparaître pour en garder la trace. Qu'est-ce qui fait que tout semble plus vaste là où il est ? Qu'il y a plus d'amplitude qu'ailleurs, entre sa main et le banc, entre son pied et la terre, ce qui fait respirer le reste du groupe sans même qu'il l'ait voulu. Cette évocation m'exalte. J'ai envie de le chercher partout autour de moi, le père regard. Et déjà des visages surgissent, de ceux qui, pour reprendre tes mots, sont entrés dans ma chair. Michel Chara est né de 3 enfants dans un village de Haute-Loire. Il voit mourir sa mère à l'âge de 10 ans. Pour aider son père, il commence par faire le croque-mort, mesurant les cadavres, fabriquant les cercueils, creusant les tombes. Puis il devient menuisier. Ce qui m'émerveille chez lui, c'est sa façon dont l'être, ce qu'il est profondément, transpire sur le métier. On le connaît aussitôt, Michel, en le voyant planter un clou. Lui s'est fait une présence en affûtant ses gestes et surtout en prenant soin de cette joie toute simple qui a traversé les années et qui fleurit devant l'obstacle sur le chantier. La poutre a monté sur le toit, la planche rétive, l'outil cassé, et voilà qu'il s'y flotte. Chacune de ces petites victoires contre la pesanteur, sa vieillesse, le manque de matériel, confère à ce qu'il fabrique un supplément d'âme, une patine. À ses clients, il ne livre pas seulement un meuble ou une cabane, mais une façon d'aimer. Il y a de l'espace autour de lui. Au lieu de se plaindre quand sa jambe est bloquée, il dit seulement
« Bon ».
Et Nassanti, à l'autre bout du monde. Veuve, atteinte d'une maladie incurable, elle porte son bébé sur la hanche pendant plus de 300 km jusqu'à Quito pour participer à une marche de protestation contre l'extraction pétrolière.
Caminar para nuestra Pachamamita, para defender los bosques, me da tanto ánimo, sin jiguar mi cani.
Volteare, xaricoxa, urcoro, nawanda, moscure, xaxaya.
Il y a aussi beaucoup de place autour d'Ena. Certains pourraient me rétorquer que rien ne peut se comparer à un camp de concentration. Mais n'est-ce pas toi qui dis aussi, mon cher Jacques, que le monde est partout le même, qu'il n'est pas de lieu privilégié de la plus grande douleur des hommes. Alors je peux bien les invoquer, ceux-là aussi. Tu ne crois pas ? C'est qu'ils savent si bien échapper à ces réflexes de fermeture où l'adversité nous entraîne. Ce que tu nommes le surnaturel, cette désobéissance au destin, cette aptitude à faire fleurir quelque chose qui ne dépend d'aucune circonstance, existe partout, depuis toujours. Je suis assise près du ruisseau, devant la nuit. Je pense à tous ces grands vivants, ceux qui débordent d'une musique, d'une joie, d'une vibration où l'on peut venir boire. Et le ciel peu à peu se remplit de lampions, comme ces lanternes japonaises portées par la seule force de la petite flamme qui les remplit. Il y a ceux que je connais, Claude Canonica et sa tarte d'abricot, la vieille dame de Bizerte, Donia Corina de Sarayaku, et ceux aussi dont on me parle, comme ce Vitali Shroub, revenu à Novovorontsovka, sous les obus, en plein Donbass, pour faire le pain à ceux qui sont restés. Cédric Héroux, arrêté pour avoir aidé des migrants. Joseph Garrigue, conservateur de la forêt de la Massane. Il s'élève. Il clignote à côté de la guerre, de la sécheresse, des maladies, des pauvretés. Par-delà toutes nos incertitudes, ils prennent le ciel. Il y en a tant. Tu te souviendras d'une autre rencontre, à Buchenwald, tout aussi bouleversante. Lui s'appelle Louis Onillon. Jérémy Regard est mort. Laminé par la terreur, la faim, le froid, vous avancez comme des pantins. Tout chavire, tout chaote. Louis Onillon partage ton lit. Tu sens surtout sa jambe de bois, immobile, parfaitement dure. Et tu ne t'es pas encore hasardé à te demander si au bout du moignon, il y avait un homme. Mais ce soir, tu as faim. Depuis 3 jours, quelqu'un vole ton pain. Si ça continue, tu vas mourir.
Louis, ils disent que c'est toi qui m'as volé mon pain. Est-ce que c'est vrai ?
Quoi ?
Cette parole, ce bruit de voix sans signification s'est fait de plus en plus faible. Quoi disait oui avec une évidence totale, bien plus qu'un aveu, incomparablement plus. Alors je lui ai dit...
Écoute. On va se mettre ensemble, toi et moi, pour ne plus voler. Tu vas devenir mon grand copain. Mon frère. Imagine tout ce que nous serions capables d'inventer ensemble pour vivre mieux. D'ailleurs, tu n'as pas volé mon pain. J'en suis sûr. Par conséquent, tu ne le voleras plus.
Au pacte que je lui offrais, Louis n'a pas répondu par des phrases, mais il a immédiatement partagé sa couverture.
Ce pacte avec le voleur, l'imbécile, celui que tout le bloc rejette, t'ouvre à ce monde nouveau dépourvu de jugement.
Les pauvres gens qui se croyaient encore chez eux, à l'abri derrière leur rancune et leur prudence, nous n'étions pas chez nous. Nous n'étions nulle part où il y eût quoi que ce fût à protéger, sinon la vie et l'amour. Et cela, c'était urgent, parce que cela, c'était en train de s'écouler de nous.
Mais tu découvres surtout l'intimité d'un homme abandonné par son père, qui perd sa jambe à l'âge de 10 ans, puis sa mère quand il est encore à l'hôpital. Une jeunesse d'orphelinat, puis de vagabondage. Une vie qui depuis toujours ressemble à celle que vous vivez ici à Buchenwald, qu'il prononce...
Buchenwald.
Là encore, ta vision s'affine, s'approfondit. Sous la méchante épave, le voyou invalide et menteur, tu découvres cet être doux, qui perçoit tout, aide les plus faibles. Un être capable, comme tu le dis, de comprendre sans parler et digérer toutes les peines des autres.
Le beau tandem que nous faisions. Moi, le jeune homme aveugle avec ma tonsure, la bouffissure des traits due à la fatigue, et lui, mon gardien bancal, ébahi, éperdu de sollicitude, qui jetait sa jambe articulée dans l'action par saccade, et qui tenait toujours ma main, mon bras, mon coude, ma manche ou bien ma tête, et qui me protégeait toujours un peu trop, au-delà du besoin, comme s'il avait reçu mission de porter un manteau étendu au-dessus de moi.
Auprès de Louis, quelque chose revient, comme une force, une chaleur qui s'affirme, qui s'installe, au goutte à goutte de vos silences, épaule contre épaule, dans ce cœur à cœur que nul ne soupçonne autour de vous et qui pourtant rétablit peu à peu les circuits de la vie.
En avril, je suis conduit à l'infirmerie, foudroyé par une pleurésie, une dysenterie et une otite qui me rendent partiellement sourd. Alors que je me vois concrètement en train de quitter le monde, voilà que je sens la vie. Elle est là, comme un flot lumineux, une caresse. Elle me touche, elle me déborde, je me laisse flotter sur elle. La vie qui soutenait ma vie.
Ange, est-ce une plainte? Ai-je l'air de me plaindre? Mais que serait-elle donc, cette plainte mienne? Non. Non. Je crie. Je frappe deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Et je n'ai pas le sentiment d'être entendue. J'ai beau faire du bruit, tu ne m'en entendras pas mieux. Ne me sentirais-tu pas rien que par ce que je suis ? Envoie. Envoie ta lumière. Fais que les étoiles me considèrent davantage, car je suis en train de me dissoudre. Qu'il soit qui vous voulez, comme la veilleuse plaintive dans le manteau de la lampe, je me loge tout au fond de lui. Une clarté s'apaise. Ainsi la mort trouverait son chemin avec plus de pureté. Le rêve est la traîne de brocart qui tombe de tes épaules. Le rêve est un arbre, un éclat fugitif, un bruit de voix, un sentiment qui en toi commence et s'achève est rêve. Un animal qui te regarde dans les yeux est rêve. Un ange qui jouit de toi est rêve. Rêve est le mot qui d'une douce chute tombe dans ton sentiment comme un pétale qui s'accroche à ta chevelure. Lumineux, confus et là. Lèves-tu seulement les mains ? C'est encore le rêve qui vient. Et il y vient comme tombe une balle. Tout, ou presque, rêve. Et toi, tu portes tout cela.
À celui qui te dit qu'il faut te préparer à mourir, tu réponds par un grand rire. Tu sais maintenant que tu vas vivre. Et quand le 8 mai 1944, tu ressors miraculeusement de l'infirmerie, Buchenwald est devenu pour toi un lieu acceptable. Tu as retrouvé ta joie. Tu sais reconstituer un espace de lumière entre toi et le camp. Tu vas pouvoir à ton tour aider les autres. Tu es celui qui a tout appris de la nuit.
J'ai tout appris de la nuit.
Dans les yeux de Jacques Lucéran.
Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Cibran. Avec
Audrey Bonnet,
Sylvain Levitte,
Michel Kuhlmann,
René Hernandez,
Marcela Obregón,
Audrey Stupovski.
Et les voix de Leander Hartmann, Philippe Weissert, Raphaël Magnabosco, Cédric Daniello, Antoine Crozet, Gary Green, Bruno Ouzo, Gabor Pinter, Mathias Simon, Matej Hoffmann, Nicolas Pietri, Michael Doncarli, Olivier Bonneau. Bruitage, Sophie Bissans. Musique originale, Anthony Capelli. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Pierre-Henri, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Laure Egoroff. Claire Lucéran a mis à disposition d'Anne Cibran pour l'écriture de ce feuilleton un large corpus de textes de Jacques Lucéran, référence complète à retrouver sur notre site franceculture.fr.